Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce dimanche soir, 13 décembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La DSA iranienne répondra fermement à la moindre violation de l'espace aérien du pays, a averti le commandant-chef adjoint de la base de la DSA iranienne, Khatamullah Bia. En Irak, la quatrième phase de la troisième étape de l'opération Véritable Promesse a été lancée à Bassora pour y détecter les suspects, établir la stabilité et la sécurité. Et à Paris, les manifestants sont descendus dans les rues pendant plusieurs semaines consécutives pour protester contre le projet de loi sur la sécurité. C'était les principaux titres, en voici le journal. La DSA iranienne répondra fermement, tout comme elle l'a fait par le passé, à la moindre violation de notre espace aérien, a averti le commandant-chef adjoint de la base de la DSA iranienne, Khatamullah Bia. Le général de brigade Radir Rahimzadeh, commandant-chef adjoint de la base de la DSA iranienne, Khatamullah Bia, a déclaré, lors d'une visite au centre de commandement des opérations de défense aérienne, que l'espace aérien du pays fait partie de nos lignes rouges. La DSA iranienne répondra fermement à la moindre violation de l'espace aérien du pays, a-t-il martelé, faisant allusion à certaines activités aériennes menées dans la région par les forces transrégionales, le général de brigade Rahimzadeh a déclaré. Tous les agissements des forces régionales et transrégionales, y compris le vol de bombardiers B-52 à une distance de plus de 150 km des frontières aériennes du pays dans le sud du Golfe Persique, seront examinés. Le système de défense aérienne intégré du pays surveille leurs agissements à chaque instant. Évoquant la position stratégique de la République islamique d'Iran dans la région et les hostilités successives contre lui, le général Rahimzadeh a déclaré « La base de défense aérienne intégrée du pays surveille et analyse les mouvements de divers types de drones, se renseigne sur les objectifs et les agissements de l'ennemi pour planifier et mettre en œuvre des plans appropriés par la suite. » Une source de sécurité irakienne a fait part du vol de plusieurs bombardiers américains B-52 au-dessus de la frontière irako-syrienne. Selon la source, les B-52 ont survolé des zones le long de la frontière irako-syrienne. Plus tôt, des responsables militaires américains avaient annoncé le transfert de bombardiers américains en Asie occidentale. Le commandement des opérations de Bassora a annoncé dans un communiqué le lancement de la quatrième phase de la troisième étape de l'opération Véritable Promesse à Bassora. Le communiqué du commandement des opérations de Bassora indique L'opération sera menée sur deux axes, l'un sur l'axe nord avec la participation de la 36e brigade d'infanterie, de la police de Bassora, des forces opérationnelles, des agents de renseignement et des Ashtal Shabi pour inspecter les zones du nord de Bassora. Sur l'axe sud, le commandement de l'armée de l'air, les gardes frontières du 4e district du commandement des opérations de Bassora, les institutions de renseignement et de sécurité, les Ashtal Shabi et les forces de police participeront à l'opération. Le commandement des opérations de Bassora a déclaré que le but de l'opération était de détecter les suspects et d'établir la stabilité et la sécurité dans la province de Bassora. Les sources de sécurité en Irak ont par ailleurs signalé qu'une explosion avait eu lieu à l'aéroport international de Bagdad samedi 12 décembre. La chaîne Al-Soumaria, citant une source de sécurité, a annoncé qu'un objet étrange avait explosé à l'intérieur de l'aéroport international de Bagdad. L'explosion n'a fait aucune victime, selon la source. En Syrie, les forces d'occupation américaines continuent de voler le pétrole du pays. Les sources locales depuis le village de Souaïda ont affirmé que les forces d'occupation américaines ont fait sortir un convoi chargé de pétrole syrien volé de la banlieue de Hasaka vers les territoires irakiens via le poste illégal d'Al-Walid. Ces sources ont indiqué à l'agence presse officielle syrienne Sana qu'un convoi composé de 85 véhicules militaires et de camions citernes chargés du pétrole syrien volé et d'équipements militaires s'était dirigé vers l'Irak via le poste illégal d'Al-Walid. Elles ont mentionné que 16 véhicules blindés appartenant aux forces d'occupation américaines avaient accompagné le convoi jusqu'à la frontière irakienne. Quittons la région et allons directement à Paris où les manifestants sont descendus dans les rues pendant plusieurs semaines consécutives pour protester contre le projet de loi sur la sécurité. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de la capitale française, exigeant que le projet de loi sur la sécurité ne soit pas approuvé. Les manifestations se poursuivent alors que Christopher Castaner, le chef du parti au pouvoir au Parlement français, a précédemment annoncé que le projet de loi serait complètement réécrit et une nouvelle version sera présentée. Lors des manifestations de la semaine dernière à Paris, la police anti-émeute s'est affrontée avec des manifestants qui ont incendié des objets et plusieurs voitures, leur lançant du gaz lacrymogène. La France a connu une vague de manifestations anti-gouvernementales depuis que le gouvernement français a présenté un projet de loi controversé qui permettrait aux forces de sécurité de se doter de plus de matériel d'espionnage. À travers ce projet de loi, le gouvernement français cherche à augmenter les outils de surveillance du gouvernement et à restreindre le droit de publier des images des forces de l'ordre sur les médias et les réseaux sociaux. Le projet de loi soutient que la protection des forces de police contre les discours de haine sur Internet devrait être renforcée. Mais les manifestants français insistent sur le fait que le gouvernement français cherche à restreindre les libertés civiles. Et de l'actualité africaine, l'Algérie a dénoncé samedi des manœuvres étrangères visant à déstabiliser ce pays, mentionnant Israël. Après la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie d'une normalisation des relations de ce pays avec le régime sioniste. Réagissant le samedi 12 décembre à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le premier ministre algérien a déclaré que le régime sioniste est à nos frontières et que nous devons nous unir pour faire face à cette menace. Il y a aujourd'hui une réelle volonté pour que l'entité sioniste parvienne à nos frontières. Il y a des manœuvres très graves dans notre environnement régional qui visent particulièrement l'Algérie. A averti le premier ministre algérien Abdelaziz Djerad lors d'une conférence commémorant le 60e anniversaire de manifestations nationalistes pendant la guerre d'indépendance 1954-1962. Par ailleurs, le premier ministre algérien a indiqué que le peuple algérien veut l'unité, la stabilité et la liberté sur la base des principes religieux de ce pays. Après l'annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et le régime sioniste, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que la cause palestinienne est sacrée et que notre position à cet égard est immuable. La création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec la noble Rhodes comme capitale. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. We'll be right back. Pyongyang finira par nucléariser le Venezuela, les États-Unis se sentent menacés par une coopération stratégique accrue entre l'Iran, le Venezuela et la Corée du Nord. Un magazine nippon s'est penché dans un article sur le renforcement des relations entre l'Iran, le Venezuela et la Corée du Nord, malgré les sanctions américaines, et a écrit que ces trois pays intensifient leur partenariat stratégique alors que les États-Unis continuent de faire pression sur eux. Des diplomates soulignent dans son article, daté du samedi 12 décembre, que ces dernières années, cette coalition émergente a cherché à renforcer sa coopération dans les domaines militaires, du renseignement, de l'économie et de la cybercriminalité pour contourner les sanctions américaines. Avec le renforcement de leur coopération trilatérale, ces pays pourraient devenir plus aptes à éviter les sanctions US et à étendre leurs capacités militaires qui menacent la sécurité nationale des États-Unis. De plus, les répercussions humanitaires induites par les sanctions entraînent d'énormes coûts de réputation pour les États-Unis et peuvent renforcer la rhétorique anti-américaine. Selon l'article, la politique américaine vis-à-vis de l'Iran n'a pas dissuadé efficacement la collaboration Iran-Corée du Nord dans le développement des armes, une tendance qui est vraie avec et sans l'accord nucléaire iranien, le plan global d'action conjoint. Les deux États ont toujours partagé la méfiance à l'égard de la politique étrangère américaine et ont été rapprochés une fois que l'administration Trump s'est retirée du plan global d'action conjoint et a intensifié les sanctions. Le magazine ajoute que Téhéran et Pyongyang collaborent au développement et à la vente d'armes qui jettent les bases de futurs partenariats. La Corée du Nord achète également de l'énergie à l'Iran. Il est également à noter que les deux États collaborent sur les capacités de cyberattaque et de défense et peuvent partager des renseignements qui nuisent aux intérêts des alliés américains. À son tour, cela pourrait rapprocher les deux États face à des sanctions américaines plus sévères, ajoute le magazine japonais. Alors que le gouvernement des États-Unis continue d'imposer de dures sanctions économiques contre le gouvernement de Caracas, le Venezuela a renforcé ses relations diplomatiques avec l'Iran et la Corée du Nord. Les sanctions US ont en effet encouragé une plus grande collaboration économique entre l'Iran et le Venezuela dans un contexte de montée du sentiment anti-américain. Plus tôt cette année, l'Iran a contourné la campagne de pression maximale de l'administration Trump avec une flotte de camions-citernes à destination du Venezuela, transportant 1,53 million de barils d'essence et de composants de raffinage. En outre, l'Iran continue de faire bon usage de son statut d'observateur au sein de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques pour renforcer les liens commerciaux existants avec le Venezuela et contourner les sanctions économiques américaines. L'Iran a récemment ouvert son premier supermarché à Caracas. Ces investissements commerciaux bilatéraux jettent les bases des futurs efforts de collaboration pour échapper aux sanctions américaines et renforcer les partenariats stratégiques préjudiciables à la sécurité nationale des États-Unis, précise le magazine Nippon dit diplomate.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va revenir sur cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien annoncé par le président américain Donald Trump. Côté palestinien, la réaction à cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien a été immédiate. Les groupes palestiniens ont condamné cette décision du Maroc de normaliser avec le régime israélien. Il y a eu surtout en fait cette réaction du côté du Hamas, ce mouvement de la résistance islamique de Palestine, qui a en fait considéré comme un péché politique cette décision, un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne. Le djihad islamique de la Palestine aussi a dénoncé cette normalisation de relations entre le Maroc et le régime israélien. Il y a eu également deux trop réactions négatives de la part de trop groupes palestiniens à cette décision. Côté front Polisario, la réaction était aussi immédiate. Le front Polisario du mouvement indépendantiste sahraoui a dénoncé avec force la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tout en disant que voilà, cette décision n'enlève rien à cette détermination du Front Polisario de vouloir en fait faire valoir ses droits. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Bruxelles, un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Monsieur Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et surtout bonjour à mon collègue, le professeur Dortiguier.
Vous l'avez dit, Luc Michel, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est Pierre Dortiguier, philosophe français, spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Norostine, salutations à vos auditeurs et bien sûr à Monsieur, notre cher ami Luc Michel.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Première question, quelle évaluation portez-vous sur cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, s'il vous plaît?
Eh bien, il ne s'agit pas en réalité de quelque chose de surprenant, peut-on dire de nouveau au sens précis du terme, car c'est mettre simplement en droit, poser en droit, ce qui existait en fait. Je m'explique là-dessus. Vous savez que la plus grande personnalité, peut-on dire, de la politique marocaine, qui est un homme de mon âge du reste, M. André Azoulay, qui a été, je crois, directeur ou vice-président pardon, de la Banque de Paris-Basse à Paris, etc., qui a beaucoup fait pour les relations entre... qui est marocain, qui a beaucoup fait pour les relations entre la France, le Maroc... et lui-même, je crois, docteur honoris causa de l'université Ben Gurion, près de Barcheba, et a toujours œuvré, disons, pour des relations très, très solides entre l'entité sioniste et le Maroc. Je dois dire que je cite cette personnalité car elle est essentielle. Elle a même, comme vous dites, comme j'ai dit, une part importante dans la politique française. C'est le cas de sa fille, qui est parisienne, qui est maintenant la directrice, je crois, de générale de l'UNESCO, après avoir été notre ministre de la Culture, vous savez, pendant 2 ans, en 2016-2017. C'est donc une grande famille qui a, si je puis dire, des racines internationales. Et c'est elle qui a, à mon avis, bâti, ou contribué à bâtir, disons, ces relations de fait entre le Maroc et l'entité sioniste. Et bien sûr, M. Azoulay, dont je parle, a souvent insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait deux États côte à côte. Mais si vous reconnaissez deux États, ça veut dire qu'un État reconnaît l'autre, voyez-vous. Donc, je parle d'État palestinien à côté de l'État israélien. Et donc, cette politique ne nous surprend pas. Et ce qu'a fait le président Trump aujourd'hui, c'est finalement de reconnaître aussi un État de fait, c'est-à-dire l'existence de ces liens pas privilégiés, de ces liens fondamentaux, disons. Je ne crois pas que M. Luc Michel me contredise là-dessus, qui connaît très bien l'Afrique, ces liens fondamentaux entre le Maroc et l'entité sioniste. Et bien sûr, cela peut se revêtir des formes différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des protestations d'un côté ou de l'autre, je veux dire au Maroc, en disant qu'il y a un lâchage des Palestiniens, etc. Mais chacun sait que ces relations sont profondément enracinées. Et même, je sais que si M. Rami était avec moi, avec nous par exemple, il nous dirait même les liens très intimes qu'il y a entre la famille royale et l'entité sioniste.
Merci beaucoup, M. Dortiguet. Parmi en fait les premières réactions à cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, il y a eu également celle du secrétaire général de l'ONU, Antonino Guterres. Antonino Guterres a une position inchangée sur le Sahara occidental, a déclaré son porte-parole lors d'un point de presse. M. Guterres pense que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours selon son porte-parole, M. Staffan Dujarric. Luc Michel, venez d'entendre les explications de M. Dortiguet. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais ma lecture, il faut constater une chose tout d'abord, c'est que le passage de Trump à Biden, ça va conduire à un certain nombre de réalignements de la politique américaine et des alliés des États-Unis, notamment avec la Turquie. Mais en ce qui concerne le Maroc, il n'y a rien qui va changer. Les liens avec le Maroc étroits ont été tendus sous Obama et Clinton avec l'administration américaine. Pompeo, lorsqu'il a trahi les réseaux Clinton, pour devenir les réseaux d'Obama, pour devenir lui qui était le chef de la CIA d'Obama, pour devenir le state secretary de Trump, il a apporté ses réseaux et donc la politique est la même. Trump simplement, vis-à-vis d'Israël, je l'ai dit pour d'autres États, c'est le cas des Saoudiens, des Émiratis, il a rendu officiel ce qui était jusque-là une alliance honteuse. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est le Maroc. Le Maroc, c'est la porte d'entrée des Occidentaux en Afrique. Tout d'abord, il y a l'alliance économique avec Paris, il y a l'alliance diplomatique avec l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que depuis le début des années 80, le Maroc est candidat à l'adhésion à l'Union européenne, mais en même temps, il joue à l'Africain, à l'Union africaine. Troisièmement, c'est surtout la porte d'entrée de l'OTAN et des États-Unis. Le Maroc a été proclamé, je dis bien de l'OTAN et pas de l'Africom, le Maroc a été proclamé allié privilégié, c'est un statut de préférence de l'OTAN, et il s'apprête à abriter la super base de l'US Navy en Méditerranée qui va quitter l'Espagne pour partir au Maroc. À partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner de voir les Marocains. Les Marocains, depuis 60 ans, ont une position pro-occidentale, anti-africaine et anti-tiers-mondiste. En 2011, lorsque l'agression contre la Jamaïque de Kadhafi s'est faite, l'aviation marocaine a participé avec les Français, les Américains, les Britanniques au bombardement de Tripoli et de Sirte. Et dès le début des années 60, le Maroc y sert de joker occidental pour bloquer, à partir de 1960, l'Algérie. L'Algérie qui est au cœur du tiers-mondisme, où est la tricontinentale, c'est-à-dire l'interface entre les non-alignés de Tito et les soviétiques. Et à partir du moment où Kadhafi arrive au pouvoir en 1969, le Maroc mène une politique anti-Kadhafi, sabotant notamment les efforts de Kadhafi pour unifier le Maghreb. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qui se passe actuellement. Il faut savoir encore une chose, c'est que le Maroc a été pris en otage dans la querelle entre Londres et Washington et Paris pour le contrôle de la CEDEAO. Macron avait un plan avec le président ivoirien Ouattara, c'était de s'emparer de toute la CEDEAO. Il faut comprendre que dans la CEDEAO, il y a 7 pays qui font partie du Commonwealth, en plus des pays de la France-Afrique. Et donc Macron a essayé de s'emparer du tout et de faire du projet de monnaie de la CEDEAO, l'ECO, le nouveau franc CFA. Dans la foulée du Brexit, Londres et Washington s'y sont opposés, et le Maroc, qui était le complice de Paris dans cette affaire géoéconomique, il s'est retiré prudemment sur la pointe des pieds, on ne l'a pas entendu, et donc les Marocains aujourd'hui, indépendamment de leurs liens privilégiés qui ont toujours existé avec Israël, ils n'ont rien à refuser aux États-Unis. Ça ne changera pas avec Joe Biden. Il ne faut pas s'imaginer de grandes choses dans ce domaine-là. Certains, je sais, certains analystes, ce sont généralement ce qu'on appelle des théoriciens du complot nous explique que les États-Unis auraient lâché Israël, c'est une galéjade. L'AIPAC, le lobby pro-israélien, il fait la pluie et le beau temps aux États-Unis. Joe Biden va compter avec l'AIPAC pour sa présidence. Et les deux hommes qui vont définir la politique étrangère des États-Unis sous Biden, c'est-à-dire Blinken, State Secretary, Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, ce sont des sionistes et des likoudniks enragés. Donc, ne pas s'entendre à ce que ça change. Et le Maroc, évidemment, il s'est inscrit là-dedans. Je ne suis pas, je vais terminer là-dessus pour ce premier jet, je ne suis pas quelqu'un qui prend cette théorie que Trump serait en train de jeter une série de bombes ou de poser des mines sur la politique étrangère américaine. En Afrique, en tout cas, elle va aller en Israël dans la continuité de ce qui se fait d'ailleurs depuis une décennie.
Monsieur Dortillier, pour reprendre l'expression de Monsieur Luc Michel, en fait, le Maroc, c'est la porte d'entrée des Occidentaux, des Européens, des Américains en Afrique, et avec cette, si vous voulez, officialisation, disons-le, des relations entre le Maroc et le régime israélien, ce pays peut devenir la porte d'entrée d'Israël également au Maroc et partant du Maroc en Afrique. Il y a ceux parmi des analystes également, M. Dortillier, qui avancent de cette hypothèse que la coopération, la normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien peut avoir comme conséquence également la présence militaire israélienne au Maroc et partant du Maroc en Afrique. Mais s'agissant du Maroc, c'est en fait ce qui rend délicate cette présence militaire, c'est que le Maroc, c'est le voisin de l'Algérie, M. Dortillier. Corroborez-vous cette hypothèse, M. Dortillier?
Oui, en effet. En tout cas, je retire deux points. Je veux indiquer deux points importants. C'est que la présence israélienne en Afrique est très importante. M. Luc Michel ne me démentira pas. Elle date même de l'époque de Lumumba, etc., du président Nkrumah. C'est-à-dire que les diplomates israéliens ont toujours eu, disons, une grande politique africaine. Elle avait été réclamée par Ben Gurion à l'époque. Ils s'y sont maintenus, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Et donc, cela ne changera pas pour les Israéliens. Qu'il y ait maintenant une présence militaire plus affirmée comme cadre, comme politique d'encadrement militaire d'Israël au Maroc, je le crois volontiers. Et cela aura le visage, bien sûr, d'une lutte contre le terrorisme, mais aussi seront des conseillers militaires dans une lutte permanente, ou chronique, si j'ai pu dire, si ce mot est entendu en français, entre le Maroc et l'Algérie. Je me rappelle très bien, et je le déplore, du reste, c'est une formule de De Gaulle ancienne qui a été, reprise par l'ancien ministre Peyrefitte dans ses mémoires, en disant il faut que nous favorisions la lutte entre l'Algérie et le Maroc pour éviter qu'il y ait justement un Maghreb uni. Voyez ? Et ceci, bien sûr, peut paraître mesquin, mais c'est quand même, disons, le sens de la politique coloniale ancienne ou traditionnelle, si vous voulez, dont Israël n'est qu'un des aspects. Et je crois que de ce point de vue, la politique militaire israélienne, en effet, pourrait, non pas d'intervenir massivement, bien sûr, mais de former des cadres pour pouvoir justement présenter au Maroc, par exemple, auprès des Marocains, l'Algérie comme étant un pays qui veut démembrer le Maroc, qui veut, à part par le Polisario, qui veut, disons, dont le Polisario étant présenté comme une création des services secrets algériens, etc. Bon, qu'il y ait bien sûr des vérités à droite et à gauche, des vérités démembrées, si j'ai pu dire, qu'on a peine à reproduire comme un corps qu'on voudrait faire devenir un corps mort, qu'on voudrait faire redevenir vivant, ça c'est possible. Mais je crois qu'en effet, cette reconnaissance officielle n'est que, une marche supplémentaire de la politique mondiale israélienne.
Monsieur de Luc Michel, c'est une reconnaissance de la politique mondiale israélienne ?
Israël a toujours eu, en tout cas, une politique africaine. Par exemple, c'est elle qui a lancé le démembrement du Soudan dans les années 60. Le Soudan, c'est la géopolitique qui explique ça. Lorsque vous venez du Proche-Orient, que ce soit d'Israël ou de Syrie, comme les Russes l'ont fait, la porte d'entrée de l'Afrique géopolitique, c'est le Soudan. Donc les Israéliens sont présents au Soudan. C'est eux qui ont conduit au démembrement entre les deux Soudans en 2010. Ils sont présents également en Éthiopie dans la question du Tigré. Ils sont présents en Somalie. Et ils sont présents en Afrique du Nord, principalement là-bas pour des raisons qui ne sont pas diplomatiques, mais qui sont les ventes. Israël est là un lobby militaro-industriel qui est un mini-lobby militaro-industriel sur le modèle américain. Et les
Nous avons perdu, oui. Semble-t-il malheureusement, notre liaison avec Bruxelles. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je suis toujours là. J'avais malheureusement un appel, je viens de l'interrompre. Donc, il faut qu'on...
Je vous en prie. Continuez, monsieur Luc Michel. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je suis toujours là.
Je vous en prie, la parole est à vous.
Ils n'ont pas suffisamment, donc, un marché intérieur pour justifier le grand lobby militaro-industriel américain, israélien, qui produit des avions, qui produit des chars, qui produit des drones, qui produit du matériel, des petits armements, etc. Et donc, ils ont besoin d'exporter. Où exporter ? On n'exporte pas le matériel israélien en Europe, on n'exporte pas en Europe de l'Est, on exporte en Afrique. Il y a donc des ventes d'armes israéliennes un peu partout, et le cœur de ces ventes d'armes, c'est le Sud-Soudan. Il y a eu un scandale à la Knesset il y a 3 ans, où le Parti socialiste a révélé que le Likoud avait squatté ou vampirisé ce lobby militaro-industriel et mené de juteuses affaires, notamment en entretenant la guerre civile entre les factions politiques du Sud-Soudan. Voilà donc ce qui se passe. Il est bien certain que la reconnaissance avec le Maroc, elle va favoriser cette pénétration qui est une pénétration militaro-commerciale. Les Israéliens vendent aussi des produits de sécurité et ils vendent aussi ce qu'on ignore le plus souvent, ils vendent au régime africain des images satellitaires qui sont indispensables, vous soulignez, dans la lutte contre le terrorisme. Et les Israéliens fournissent aux Africains, d'ailleurs, ce que les Français ou les Américains ne veulent pas fournir. Voilà les données du problème. Il y a maintenant la dernière question, évidemment, qui est à part, c'est la question du Polisario et des rapports avec l'Algérie. Je dirais que c'est un sous-dossier de ce qui se passe. Et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara espagnol, c'est un peu un échange de bons procédés de l'administration Trump à partir du moment où les Marocains aident Trump à terminer sur un grand succès de politique internationale qui va lui servir à se profiler, d'ailleurs, pour la prochaine élection présidentielle dans 4 ans. Il faut donc comprendre maintenant l'Algérie, évidemment, il y a quelqu'un qu'on a oublié dans tout cela, et ça c'est la grande erreur de Trump ou des Américains, c'est que le plan, ce qu'on a appelé le Big Deal, ce plan du Likoud et de Trump, il sert de moyen de pénétration aux Russes. Les Russes, notamment, ont renforcé l'axe de la résistance, ils ont rétabli la parité stratégique. Ils se sont éloignés d'Israël, malgré la présence en Israël d'une très grande communauté de juifs venus de Russie. Et il est bien certain que les Russes se tiennent ici aux côtés des Israéliens face au Maroc. Et ils vont bien entendu s'ingérer dans le problème, notamment dans celui du Polisario. D'autant plus que le Maroc a fait une erreur. Il y a actuellement une compétition géopolitique pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, je dis bien occidentale et pas orientale. L'amiral commandant les flottes d'Eurasie et d'Afrique, l'US Navy, s'est plaint de ce que les flottes russes en Méditerranée occidentale bloquaient les marines de l'OTAN. Et le Maroc participe à contrer la Russie notamment avec cet établissement de la grande base de l'US Navy au Maroc, qui va se déplacer d'Espagne précisément pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Les Russes ne vont pas rester l'arme au pied. Le développement de la Russie comme une puissance maritime, c'est le grand plan du réarmement de la Russie de Poutine. Il y a un plan qui va se terminer en 2050. En 2050, la Russie sera revenue, comme au temps de Brejnev, avec des flottes russes sur les 6 océans du monde et une politique de puissance mondiale avec des bases, etc. Les bases, évidemment, en Afrique du Nord, c'est l'Algérie.
Merci beaucoup, M. Dorty. Il y a une dernière question. Nous avons 2 minutes presque devant nous. Si j'ai bien suivi Luc Michel, cette normalisation, plutôt cette officialisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, ça s'inscrit, si vous voulez, dans le cadre d'un projet bien calculé.
Oui, en effet. Ce projet très bien calculé vise, bien sûr, une sorte d'organisation africaine. Mais en même temps aussi, il y a un dernier, dans ces derniers moments, je dirais que cela aura une influence aussi sur la politique européenne, en particulier française. Il est certain que le Maroc pourra jouer plus librement un rôle politique et idéologique, si je puis dire, par exemple dans ce qu'on appelle en France la formation d'un islam, islam républicain, voyez-vous. C'est-à-dire, je pense que le Maroc va jouer un rôle, bien sûr, dans cette transformation des mentalités, en particulier dans une sorte de reprise en main des jeunes générations musulmanes d'Europe, voyez-vous, surtout en France. Et je crois que, disons que si, cette reconnaissance, en réalité, n'est que l'augmentation de degré de la structure assignée au Maroc, disons, de la tâche assignée au Maroc.
Luc Michel, nous avons encore une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient.
Il faut donc constater quelque chose, c'est que le Maroc a une vocation géopolitique pro-occidentale, aligné sur Washington, sur Paris, sur Bruxelles et maintenant sur Tel Aviv, et cela va avoir des conséquences en Afrique. Parallèlement à cela, vous l'avez brièvement souligné, le Maroc se présente, développe depuis les années 60 un espèce de panafricanisme conservateur. Il y avait notamment le groupe de Casablanca qui s'opposait au groupe de Monrovia avec Nkrumah et Lumumba au début des années 60. Et moi, j'ai participé à des colloques, par exemple, en Côte d'Ivoire, où Merci. Il y avait des intellectuels marocains. Ils venaient présenter ce panafricanisme. Ce panafricanisme, évidemment, il n'a plus de crédibilité à partir du moment où une telle politique est développée. Notamment, en particulier, il va avoir des conséquences. Le siège de l'Union africaine, il est à Addis Abeba. Et actuellement, les Israéliens, ils participent directement à la déstabilisation Merci. Du Premier ministre Abiy Ahmed en Éthiopie.
Merci infiniment, Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous c'est une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'Algérie met en garde contre la présence israélienne à ses frontières. Réagissant ce samedi 12 décembre à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le Premier ministre algérien a déclaré que le régime sioniste est à nos frontières et que nous devons nous unir pour faire face à cette menace. L'Algérie a dénoncé samedi des manœuvres étrangères visant à la déstabiliser, mentionnant Israël après la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie d'une normalisation des relations du Maroc avec le régime sioniste. Il y a aujourd'hui une réelle volonté pour que l'entité sioniste parvienne à nos frontières. Il y a des manœuvres très graves dans notre environnement régional qui visent particulièrement l'Algérie, a accusé le premier ministre algérien Abdelaziz Djerad. Nous observons aujourd'hui à nos frontières et dans l'espace maghrébin et africain des guerres et une instabilité autour de l'Algérie. L'Algérie est visée et nous devons nous unir, a averti M. Djerad lors d'une conférence commémorant le 60e anniversaire de manifestations nationalistes pendant la guerre d'indépendance 1954-1962. Par ailleurs, le premier ministre algérien a indiqué que le peuple algérien veut l'unité, la stabilité et la liberté sur la base de nos principes religieux. Après l'annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et le régime sioniste, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que la cause palestinienne est sacrée et que notre position à cet égard est immuable. La création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec la noble Rhodes comme capitale. Suite à l'annonce d'un accord de compromis entre le Maroc et le régime sioniste, le roi du Maroc s'est entretenu par téléphone avec le chef de l'autorité autonome palestinienne pour justifier sa trahison envers la cause palestinienne. Le Hezbollah sur la normalisation entre le Maroc et Israël. La soumission à la politique de chantage US pour obtenir des gains n'est qu'illusion. Suite à l'annonce de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, le Hezbollah a publié le communiqué suivant. Le Hezbollah condamne l'annonce par les autorités marocaines de la normalisation des relations avec l'ennemi israélien qui s'inscrit dans le contexte de la chute en cascade que certains régimes arabes ont amorcé, réalisant les souhaits américains et israéliens de liquider la cause palestinienne. Le Hezbollah considère que la soumission de ces régimes à la politique de chantage américaine et sioniste dans l'espoir d'obtenir tantôt des gains, tantôt d'annuler des sanctions, n'est qu'illusion et mirage. Ils découvriront bientôt que leur pays s'est exposé à l'ennemi israélien et à ses dangereux complots. Le Hezbollah parie désormais sur le peuple marocain libre qui a lutté contre la colonisation française et surtout les peuples arabes qui rejettent toutes les formes de normalisation et soutiennent le peuple palestinien en résistance qui n'a pas fléchi devant les accords de honte et d'humiliation et poursuivra sa lutte jusqu'à la réalisation de la victoire et la libération totale. Manigance française. Alger tenté par une totale rupture. Les milieux politiques algériens sont indignés par les récentes actions de l'ambassadeur de France, François Guyette, et considèrent que certaines de ces actions ressemblent beaucoup à une véritable sédition en mouvement. L'ambassadeur de France a récemment rencontré un certain nombre de personnalités politiques et médiatiques en Algérie, et ces mesures interviennent après que le président français a parlé du début de la phase de transition en Algérie, déclaration qui a été considérée par les responsables algériens comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de leur pays. L'ambassadeur français en Algérie avait précédemment occupé le même poste de 2008 à 2012. Et lors de la révolution de 2011 en Libye, ce dernier a joué un rôle actif dans l'offensive militaire de l'OTAN contre le pays. Des sources algériennes affirment que l'ambassadeur de France tente de profiter de l'absence d'Abdelmadjid Tebboune, éloigné de la politique pour cause de maladie. Les récentes actions de Guyette pourraient amener l'Algérie à prendre une position dure contre la France et le pousser à réviser ses relations avec Paris. Des relations qui ont été bien tendues ces derniers mois. La semaine dernière, le ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Belimar, a critiqué la France pour son rôle dans le projet de loi du Parlement européen sur la liberté et les droits de l'homme en Algérie, qualifiant la position française de stupide, de déviante et de honteuse, Ce dernier a souligné que tout indiquait que l'Algérie était en train de payer un coût sévère pour avoir défendu que l'on soit juste avec l'Afrique et le Moyen-Orient et pour avoir notamment critiqué la normalisation arabe avec le régime sioniste. La conférence économique africaine se termine par un appel à une approche continentale unie contre le COVID-19. Les principaux chercheurs, économistes et experts multisectoriels d'Afrique qui participent à la conférence économique africaine 2020, le principal rassemblement économique du continent, ont appelé à une approche continentale unie contre la pandémie de COVID-19. Les participants à cette conférence virtuelle de 3 jours, qui s'est achevée jeudi dernier en fin de journée, ont appelé les acteurs des secteurs privés et publics du continent à redéfinir la doctrine sur le développement de l'Afrique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours. En dépit des difficultés qu'il a entraînées, le COVID-19 a donné à l'Afrique l'occasion de repenser les paradigmes du développement, de réimaginer l'avenir, de repositionner le secteur privé et de réévaluer la façon dont nous utilisons la technologie, a déclaré Raymond Gilpin, économiste en chef et responsable de l'équipe stratégie, analyste et recherche du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Anan Morsé, directrice de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche à la Banque africaine de développement, BAD, a fait écho aux remarques de M. Gilpin en soulignant que les délibérations de la conférence économique continentale de haut niveau sont utiles pour répondre aux besoins. Les discussions au cours des différentes sessions plénières, des événements parallèles et des sessions simultanées ont rétabli notre confiance dans une Afrique capable de renaître des cendres du COVID-19, de devenir plus résistante et plus inclusive. Un effort concerté est nécessaire. Faisons bon usage de nos grandes idées et de nos bonnes résolutions et transformons-les en actions concrètes, a déclaré Mme Morsi. Le Comité international de suivi sur la Libye exhorte toutes les parties prenantes à soutenir le dialogue politique. Le groupe de travail politique du Comité international de suivi sur la Libye a tenu une réunion lors de laquelle les parties prenantes libyennes ont été exhortées à soutenir les résultats du dialogue politique soutenu par l'ONU. La réunion a eu lieu jeudi pour passer en revue les progrès accomplis jusqu'à présent en ce qui concerne le volet politique libyen et examiner comment les participants au processus de Berlin peuvent soutenir davantage ces efforts, a déclaré samedi la mission d'appui des Nations Unies en Libye dans un communiqué. Lors de la dernière réunion du Forum de dialogue politique libyen, LPDF, les coprésidents du groupe de travail politique PWG, Algérie-Allemagne, Ligue des États arabes et MANUL ont encouragé tous les participants au LPDF à convenir rapidement sous les auspices de la MANUL. Des modalités susceptibles de permettre la mise en place du conseil de présidence restructuré et du nouveau gouvernement d'unité nationale, ajoute le communiqué. Selon le communiqué, les coprésidents ont également appelé toutes les parties prenantes libyennes à garantir l'intégrité du processus du LPDF, à faire preuve de modération dans leurs déclarations publiques et à s'abstenir de tout discours de haine et de rhétorique escalatoire. L'île tunisienne de Djerba a été choisie pour recevoir le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a déclaré la conseillère diplomatique du président tunisien. La rencontre aura lieu les 20 et 21 novembre 2021. Le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, se tiendra les 20 et 21 novembre 2021 en Tunisie, a déclaré Sarah Maouya, conseillère diplomatique de Kais Saïd, apporte l'agence officielle Tunis-Afrique Presse, TAP. C'est sur une initiative du président de la République, Kais Saïd, et en coordination avec le secrétaire général de l'OIF que les assises du sommet se dérouleront à Djerba, dans le sud tunisien, a-t-il déclaré. Dans le sillage de ce sommet de la francophonie, un autre événement de taille, très attendu en Tunisie, se tiendra également sur l'île de Djerba. En effet, Madame Mahua a annoncé l'organisation du Forum économique francophone qui, selon elle, a une grande importance du fait d'une participation palpable d'hommes d'affaires de tous bords, tunisiens, africains et étrangers.